bonjour à tous, c'est parti pour une heure d'économie. Malgré le moratoire demandé par les élus écologistes et la Convention citoyenne pour le climat, les enchères pour les fréquences 5G ont bel et bien démarré hier. La course est lancée entre les quatre opérateurs français qui espèrent chacun obtenir la plus grosse part du gâteau. Les appétits s'aiguisent à l'heure où certains n'annoncent rien de moins qu'une nouvelle révolution industrielle. C'est un monde saturé d'objets connectés, de robots et de véhicules autonomes qui pourraient advenir avec de juteux bénéfices à la clé. Alors la 5G est-elle indispensable à notre économie? C'est la question qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Ce deuxième épisode de notre série consacrée à la 5G, technologie à haut débat, nous accueillons aujourd'hui autour de la table Vincent Charlet, délégué général du think tank La Fabrique de l'Industrie. Avec nous également à distance, Pierre-Jean Bengozy, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'école polytechnique et ancien membre du collège de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques. En fin d'émission, le journal de l'écho vous sera présenté par Xavier Martinet.
Aujourd'hui, dans le monde, il y a 21 pays qui ont déjà lancé la 5G. Les États-Unis et la Chine en font un élément indispensable de leur relance et de leur développement économique. Et qu'en Europe, il y a déjà 12 pays qui ont installé la 5G. À quoi ça sert dans le quotidien? Il y a deux types d'usages. Des usages individuels qui vont effectivement apporter plus de débit, moins de latence, avec moins de consommation énergétique. Mais surtout, il y a un certain nombre d'usages, notamment dans l'industrie, notamment pour développer un certain nombre de cas d'usage dans la ruralité, comme la généralisation de la télémédecine, le développement de l'agriculture, qui doivent permettre, ou en tout cas qui sont indispensables économiquement pour continuer à faire de la croissance et à créer des emplois.
La 5G, c'est pas un gadget, c'est une priorité industrielle. C'est extrêmement important parce que c'est ça qui va permettre aux entreprises industrielles de communiquer entre elles et d'être plus compétitives. Donc ce n'est pas la basket connectée, comme je l'ai entendu sur cette antenne
François hier. François Ruffin hier.
Ça n'a rien d'un gadget.
Vincent Charlet et Pierre-Jean Bengozy, bonjour.
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 Merci d'être avec nous aujourd'hui. On vient d'entendre le secrétaire d'État numérique, Cédric O, suivi de la ministre chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher. Alors, quand on évoque la 5G, on pense d'abord aux avantages qu'elle offrirait aux particuliers. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est qu'elle constitue aussi une opportunité économique pour de nombreux secteurs, Vincent Charlet.
Oui, même surtout. En fait, pour les particuliers, je suis pas sûr que ça change la face du monde pour Air France. C'est comme si on avait nos téléphones portables connectés à la fibre. Donc on pourra regarder les vidéos en haute définition. Et puis, de ce que j'ai compris, c'est à peu près tout. Et c'est donc effectivement dans les milieux professionnels les activités économiques, services publics et hôpitaux, que les plus grandes transformations sont attendues.
Pierre-Jean Bengozy, sur le fait que ça va bénéficier aux entreprises, contrairement peut-être au discours que l'on entend habituellement, qui nous parle davantage des objets connectés, éventuellement des véhicules autonomes.
Oui, je pense que le débat sur la 5G est lancé a été lancé sur une grande ambiguïté. C'est-à-dire qu'au niveau du grand public, on perçoit cette 5G un peu comme les générations précédentes. Je vous rappelle qu'on a une génération de mobiles quasiment tous les 10 ans. Et la 4G est arrivée comme la dernière génération qui a porté une amélioration du service et des débits pour le grand public. La 5G, ça sera en partie ça, mais pas essentiellement. L'objectif principal va être d'améliorer d'une part les communications à travers la 4G, et sans 4G, pas de 5G, et en même temps aussi, et peut-être d'abord, de permettre le développement d'applications industrielles, économiques, alors à la fois sur l'organisation interne des entreprises, ce qu'on appelle parfois l'industrie du futur, et on pourra donner des exemples tout à l'heure, mais aussi peut-être sur des applications grand public, mais très très pointues. Imaginez quand vous êtes dans un stade, bon, les stades actuellement avec le Covid sont un peu vides, mais quand vous avez des dizaines de milliers de personnes qui essayent de se connecter sur Internet pour avoir éventuellement un commentaire, pour avoir des images parce qu'ils sont un peu loin et qu'ils voient mal, bah, les réseaux saturent et la 5G permettra aussi de répondre à ce type d'applications, alors qui sont tout à fait spécifiques, mais qui sont en même temps nécessaires vu l'augmentation du trafic qu'on connaît aujourd'hui.
Alors justement sur la saturation du réseau actuel qui, selon le patron d'Orange, Stéphane Richard, pourrait intervenir d'ici un an ou deux. Est-ce que vous estimez, Vincent Charlet, qu'il y a urgence aujourd'hui à déployer la 5G, peut-être plus encore à l'heure du Covid et de l'extension du télétravail ?
En tout cas, alors le télétravail passe pas uniquement par les réseaux mobiles, donc je suis pas certain que ce phénomène de société, pour peu qu'il en soit un, soit à l'origine de la plus grosse augmentation de demande de trafic mobile. Il y a une certitude, c'est que c'est du côté des opérateurs, Orange donc ou les autres, que l'équation est la plus simple. La 5G apporte un nouveau segment premium dans l'offre. Et tout le débat sur l'opportunité d'y aller maintenant ou plus tard, c'est plutôt un débat qui est nourri par les cas d'usage, justement, c'est-à-dire du côté des usagers, qu'ils soient institutionnels ou privés. Pour les opérateurs, effectivement, il n'y a pas tellement de questions à se poser.
La 5G va-t-elle simplement améliorer les services existants ou provoquer une véritable rupture ? Il y a débat à ce sujet, Pierre-Jean Bengosi.
Oui, tout à fait. Enfin, pour compléter la réponse de Vincent Charlet, on est aujourd'hui sur des augmentations de trafic qui sont à peu près doublées tous les ans. Ça revient à peu près à multiplier par 10 en 5 ans. Et ça, on le sait depuis, on l'a en tête depuis 2016-2017. Donc c'est une quand Stéphane Richard annonce une échéance très proche pour la saturation, c'est le but. Et c'est le but et ça traduit un peu cette réalité. Mais quand je disais tout à l'heure que la 5G est un peu plus complexe que les générations précédentes, c'est que les usages vont permettre d'un côté de permettre la densification des réseaux 4G et d'autre part de viser des applications. Mais derrière 5G, on a une multiplicité d'innovations qui sont très différentes à la fois dans les antennes, dans les fréquentes qu'on mobilise, dans la gestion du réseau proprement dite. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas en parler globalement et que certaines innovations vont plutôt s'adresser à l'industrie du futur, aux applications industrielles, et d'autres plutôt vont servir justement à renforcer la qualité et l'efficacité énergétique des réseaux grand public.
Alors selon certains, la 5G pourrait faire advenir cette industrie 4.0 dont on parle depuis 10 ans. Vincent Charlet, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être dans quel contexte ce concept d'industrie 4.0 a émergé ? Ce qu'il désigne.
Oui, alors avant ça, je vais remettre la phrase, si vous permettez, dans le bon sens. L'industrie 4.0 advient et la 5G est une des briques technologiques qui permet à cette industrie d'advenir, mais le mouvement est déjà en marche. Donc, industrie 4.0, industrie du futur, c'est en gros la réflexion qui s'est ouverte il y a une dizaine d'années un peu partout dans le monde et ça a commencé en Allemagne. Sur la nouvelle vague de progrès attendue dans aussi bien les formes de conception et d'organisation de la production. Pour résumer d'une formule, les fabricants allemands de machines-outils ont soudain pris peur, après s'être battus des années contre la concurrence par les coûts de leurs concurrents chinois. Ils ont pris peur que les pourvoyeurs et manipulateurs de données que sont les GAFAM leur piquent leurs clients, en fait. Et c'est ça. Et donc, ils se sont dit, bon, mais est-ce que nos métiers dans l'industrie, de ce savoir-faire, d'organiser la production, ne va pas se trouver bouleversé, ubérisé, d'une certaine façon, parce que les données seraient un nouvel Eldorado, un nouvel or noir, et que des gens plus habiles que nous réussiraient à capter les données de production ou d'usage des produits et à en tirer la valeur, et nous, on fabriquerait plus que des caisses à savon. Donc, le mouvement de fond, c'est ça. Et l'industrie du futur, en additionnant les services rendus par de nombreuses briques technologiques, dont la 5G, mais pas uniquement, lunettes connectées, réseaux, enfin bon, bref, essaye d'optimiser l'organisation de la production, aussi bien à l'échelle de l'îlot que de l'usine, que de la supply chain, en tirant parti notamment des nouvelles technologies pour offrir un maximum de services et en gros gagner la bataille de la concurrence par le haut.
Et vous avez raison de dire, Vincent Charlet, que ça a déjà démarré, mais ce que la 5G pourrait peut-être provoquer, c'est une extension de cette industrie 4.0 à plus grande échelle, Pierre-Jean Bengozy ?
Oui, tout à fait. Alors, il y a une position aujourd'hui des industriels qui est un peu ambiguë ou attentiste. Il y a à la fois une très forte attente de ce qu'on appelle les verticales, des grandes filières, notamment la santé, l'automobile, les ports, les transports publics, etc., qui voient justement dans la 5G des opportunités de développement. On en reparlera, mais en même temps, quand on les interroge directement, un peu une attente que les infrastructures soient là, parce qu'en fait, l'industrie du futur, ça a été évoqué par Vincent Charlet, c'est pas né avec la 5G, mais ça suppose d'avoir des infrastructures de connexion, ça suppose d'avoir des terminaux et des équipements, ça suppose d'avoir des applications, et ça suppose d'avoir des entreprises qui s'en saisissent. Et tant que tout cet écosystème n'est pas en place, on a à la fois une position, j'ai envie d'y aller, mais j'attends que ça soit en place, parce que ça représente des murs d'investissement pour les opérateurs comme pour les entreprises applicatives. Juste pour prendre une illustration en complément, on vient de lancer les enchères pour une des gammes de fréquences principales en France. En France, le choix a été fait d'adresser les fréquences essentiellement aux quatre opérateurs nationaux. Les fréquences ont été lancées en Allemagne un peu plus tôt, et en faisant le choix de l'ouvrir à des industriels, plus de 70 entreprises ont fait et ont eu des demandes de fréquences pour justement déployer à leur niveau, sur des applications spécifiques, etc., les services de 5G. Alors qu'en France, on est sur un choix qui a été fait de dire on aura des réseaux nationaux. Et ensuite, les industriels auront des offres qui seront offertes par ces opérateurs.
Ce qui va compliquer l'arrivée de nouveaux entrants dans ce marché de la 5G, selon vous, Pierre-Jean Mangosi ?
Oui et non. Non, parce que en fait, il y a une logique d'économie d'échelle, et le fait que ce soit des opérateurs nationaux qui déploient va permettre d'avoir des réseaux qui soient plus robustes, plus efficaces, qui couvrent davantage, et va permettre d'éviter aux industriels d'avoir eux-mêmes à investir, à réinvestir en compétences, investir pour l'achat des fréquences et investir pour les déploiements. Donc, par contre, c'est vrai que ça offre aussi, dans un cas comme dans l'autre, un espace extraordinaire d'innovation, de développement pour des sociétés de services qui vont développer des applications industrielles. Aujourd'hui, le jeu est très ouvert. Autant les GAFAM sont très présents dans les marchés grand public, autant sur les applications industrielles, pour des raisons, c'est des marchés plus complexes, il y a des services, ils sont plus coûteux à implémenter, donc ils ne sont aujourd'hui pas dominants et pas très présents. Donc il y a vraiment un espace d'innovation qui s'ouvre et un espace de développement, c'est ce qui rend la concurrence internationale aujourd'hui importante, parce que les premiers pays qui seront équipés et qui seront déployés permettront justement plus facilement à des start-up, à des acteurs nouveaux d'être présents.
Vincent Charlet, vous vouliez réagir et peut-être sur les exemples d'applications industrielles de cette 5G.
Oui, alors avant d'évoquer éventuellement certains cas d'usage précis, mais dans ce débat comme dans d'autres, je repense souvent à la formule de Jacques Le Sourne qui disait « faut réussir à faire avancer Boulogne sans désespérer Billancourt ». Il faut prendre la mesure de l'immense diversité des situations concrètes, et même si on parle uniquement des entreprises industrielles en France ou en Europe, je laisse de côté les marchés grand public, il y a des entreprises industrielles aujourd'hui dont pour lesquelles le défi numérique numéro 1, c'est d'accéder à la fibre ou à la 4G. Mmh. Et donc la 5G n'est pas un sujet pour elles. Et puis il y a des entreprises qui sont nettement plus avancées en matière d'investissement et d'équipement, qui sont plus près de la frontière technologique, comme on dit, pour qui effectivement l'industrie connectée, l'industrie du futur est déjà une réalité, et la 5G est une des voies, un des moyens pour se connecter. Il y en a d'autres.
Et alors qu'est-ce que cela permet, par exemple? Ça permet un meilleur contrôle en temps réel dans une usine,
Oui, c'est-à-dire, d'une part, le fait de connecter ces machines, par exemple, ou les objets que vous fabriquez et qu'ensuite vous vendez à votre client, ça vous permet d'avoir des flux de données sur la manière et l'efficacité avec laquelle vous produisez vos biens. Donc, ça vous permet de tendre vers le zéro défaut, par exemple. Ça vous permet aussi de personnaliser les lots et de produire au plus juste et au juste à temps exactement ce que le client a demandé, que ce soit une cuisine sur mesure, une voiture de la bonne couleur ou que sais-je encore. Et puis une fois que vous avez vendu votre produit, que ce soit un pneu de poids lourd, un réacteur d'Airbus, ça vous permet encore de capter des données d'usage, d'utilisation, pour savoir comment il se comporte, combien de miles nautiques il a volé ou de kilomètres il a roulé, etc. Et d'offrir évidemment des services associés à ça en termes de maintenance, maintenance prédictive, etc. Bon. Ça, c'est les objets connectés, les machines connectées. En face de ça, la 5G permet en gros d'avoir plus de débit et moins de latence. Donc il y a des moments où la 5G est exactement l'offre technologique qui va permettre, qui va débloquer cette offre de service ou cette possibilité de connecter des objets ou des machines. Et il y a d'autres endroits où, au contraire, on va utiliser des réseaux bas débit. Ça dépend.
Alors, la 5G pousse la collaboration homme-machine. Et sur ce point, je vous propose d'écouter le témoignage de Franck Cotentin. Il est préparateur de commandes dans un entrepôt Intermarché.
Depuis 3 ans, on est passé à la PrEP vocale. C'est-à-dire qu'on arrive le matin, on met un casque sur les oreilles. Et c'est un ordinateur qui nous commande. Un casque USB, c'est l'ordinateur qui nous dit ce qu'on doit faire pendant 7 heures. Je me lève à 2h30 du matin, je pars à 3h15, j'arrive vers 3h35, on boit un café, on s'équipe, on fait nos codes et c'est parti. Avec nos casques et tout, quoi. On fait nos codes, parce que chaque casque reconnaît, donc moi le mien, il reconnaît juste ma voix, il ne reconnaîtra pas la voix d'un autre. Chaque casque a son ouvrier et des couleurs. Aller dans l'allée 143... 217 verres, 3 colis. Donc j'arrive là où ils m'ont envoyé, à l'adresse qu'ils m'ont envoyé, et je prends 3 colis, puis après je continue comme ça. Oh, le pire, c'est quand il dit répéter, répéter, répéter. Parce que des fois, il ne comprend pas ce qu'on lui dit.
Un extrait d'un épisode de la série documentaire diffusée le 11 novembre sur France Culture. La technologie promettait de mettre fin aux tâches pénibles, répétitives, mais la collaboration avec la machine peut aussi se révéler aliénante, Pierre-Jean Bengosi.
Oui, le témoignage est fascinant parce qu'on retrouve exactement ce que Taylor racontait il y a plus de 100 ans dans ses célèbres théories et son ouvrage sur l'organisation scientifique du travail. La base de Taylor, c'était de dire les ouvriers ne connaissent pas forcément la meilleure façon de travailler et donc il faut que les entreprises développent des services de méthode pour leur dire exactement quoi faire, comment le faire, avec quel outil, etc. Et on voit que finalement, plus d'une centaine d'années après, on arrive au bout de cette logique avec toutes les limites qu'on ressent bien, à la fois en termes d'implication, de fatigue mentale, etc., et que traduit bien cette interview. Mais c'est pas le seul modèle, c'est une façon d'aller dans cette direction-là. Et je reprends l'exemple de Taylor. Les premières applications de Taylor en France ont suscité d'énormes grèves. Ça a été notamment chez Renault à l'époque. Pourquoi? Parce que une partie des industriels n'ont retenu de Taylor que l'extrême contrôle du travail à travers le chronométrage, etc. Mais on peut avoir d'autres façons d'envisager cette maintenance à distance. Aujourd'hui, sur les aéroports, par exemple, les gens qui assurent la maintenance des avions, chaque avion à ses spécificités, donc il suppose au niveau des mécaniciens, quand on y va, d'avoir exactement la bonne documentation, ça représente des centaines, voire des milliers de pages, etc. Le fait de pouvoir aller sur les tarmacs avec une simple tablette connectée, 4G aujourd'hui ou 5G demain, qui permettent à la fois d'avoir toute la documentation quand il y a une interrogation, d'avoir une information directe sur les parties connectées de l'avion ou certaines parties d'outillage pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, que les équipements sont bien en place, aux bonnes doses, etc. Là, c'est des situations où on a exactement le même contrôle à distance, mais dans une fonction d'autonomie des mécaniciens en l'occurrence, qui est tout à fait opposé à l'exemple que vous donnez de cet atelier logistique.
Vincent Charlet, selon vous, la 5G offre-t-elle des possibilités justement d'affranchir un petit peu un certain nombre de travailleurs de tâches aliénantes?
Oui et non. Ni la 5G, ni le robot, ni quelque technologie que ce soit ne portent en elles leurs conséquences sociales. on raisonne souvent en ces termes-là. On cherche toujours à se demander si le robot va tuer l'emploi, libérer le travailleur. Il n'y a pas de réponse absolue à cette question, jamais. Tout dépend toujours des circonstances dans lesquelles les technologies sont déployées, le projet d'entreprise au service duquel ces technologies sont déployées. Sur Taylor, je ne crois pas que les syndicats salariés aient d'abord été hostiles au taylorisme. Je crois le contraire. Taylor a apporté, certes, un cadre assez normatif qui séparait les cerveaux des mains, pour dire ça comme ça, c'est-à-dire ceux qui réfléchissent à la manière de concevoir et ceux qui travaillent vraiment. Mais il a aussi apporté une organisation du travail qui faisait sortir chaque manœuvre, chaque artisan d'un statut individuel. Et il a notamment apporté ou permis la reconnaissance, on va dire, collective ou institutionnelle du salariat et de la classe ouvrière. C'était tout ça à la fois. Donc en d'autres termes, le taylorisme a permis l'installation d'un rapport de force entre direction et représentants des salariés. Ce rapport de force est effectivement aujourd'hui en train de se disloquer par endroits. C'est vrai sous l'effet du progrès technologique, mais pas uniquement. Et donc on retrouve dans certaines situations, celles qu'on a entendues, mais d'autres, on retrouve une sorte de retour au primat de la situation individuelle, de l'individu autonome ou pas, maître de la machine ou au contraire aliéné face à la machine. Et ça redevient, par endroits en tout cas, ça redevient une question individuelle. L'effacement du taylorisme n'est pas une bonne nouvelle dans toutes ses dimensions.
Alors il y a quand même des cas où effectivement l'automatisation, la robotisation ont permis d'améliorer les conditions de travail dans les usines. Et ce qui est intéressant, c'est que Huawei, par exemple, expérimente dans une usine de métallurgie en Chine des grues automatisées ou semi-automatisées avec un opérateur travaillant à distance qui permet des conditions de travail beaucoup plus sécurisées. C'est un secteur intéressant à la métallurgie pour expérimenter la 5G. On peut aussi parler du BTP. Vincent Charlet, là encore, il y aurait des choses à faire avec la 5G?
Écoutez, les cas d'application dans le BTP, là comme ça, j'en ai pas en tête. En revanche, des cas d'usage qui permettent de déployer de nouvelles technologies, par exemple sur le recyclage et la récupération des matériaux. Alors c'est, on va dire, la filière ou l'aval de la filière du BTP. Dans la construction automobile, à nouveau, dans la gestion des flux logistiques, il y a des cas d'usage qui émergent. Ou dans les bâtiments en fonctionnement, ça aussi j'ai entendu des exemples, par exemple pour la maintenance prédictive des ascenseurs. Donc lorsque le bâtiment est en cours de construction, je ne sais pas vous répondre, mais je ne doute pas que des cas d'usage interviendront et se multiplieront. Il ne faut pas perdre de vue que ce sera toujours des conquêtes locales ou un cheminement... par petits pas. Vous parliez tout à l'heure de révolution technologique. Le débat fait grand bruit aujourd'hui, mais c'est probablement pas une vague ni un tsunami qui révolutionnera ni notre façon de produire, ni notre façon de consommer. Ça participe à un mouvement, à une évolution. Globalement, quand même, on le sait, en Occident, depuis au moins 30 ans, le progrès technique a tendance à ralentir. Malheureusement, c'est pas la 5G qui va venir contredire cette loi ou ce constat économique. Donc c'est un apport de plus, une brique technologique de plus, essentielle par endroit, et pas essentiel en d'autres.
Mais là où on a vraiment besoin de la 5G par rapport à la 4G, Pierre-Jean Benghozi, c'est par exemple pour le contrôle en temps réel, parce qu'il y a aussi un certain nombre d'applications où la 4G suffirait finalement.
Oui, tout à fait. Je pense que si on regarde les fonctionnalités que permet la 5G, ça rentrait forcément dans le détail. On a, mais vous l'évoquiez tout à l'heure, la possibilité de supprimer les câbles, toute la câblerie, ou la connexion par fil en la substituant avec des connexions radio, ce qui permet d'avoir des télécommandes de machines, de robots, notamment dans des environnements critiques ou dangereux. On a la possibilité de contrôler des objets en nombre considérable. Un des cas d'usage souvent évoqué, c'est la gestion des ports. La gestion des ports, vous avez tous les conteneurs, le fait de pouvoir contrôler les milliers de conteneurs sur à la fois leur localisation, ce qui remporte, etc. Il suffit d'avoir regardé un porte-conteneur ou un dock de port de marchandises pour s'apercevoir la complexité énorme liée à cette démultiplication. La possibilité également, vous l'avez mentionné, de contrôler en temps réel des voitures ou des machines. Vous savez qu'aujourd'hui, l'entreprise qui a le plus de voitures autonomes ou de machines autonomes, ce n'est pas Google, ce n'est pas Uber, c'est Caterpillar. Pourquoi ? Parce que dans les mines, une grande partie des engins de chantier, etc., sont des engins qui sont autonomes. Alors les mines, ça ou les carrières, c'est assez pratique parce que c'est des espaces qui sont clos, qui sont bien définis, bien déterminés. Il n'y a pas trop de danger, d'accidents, etc. Donc c'est facile à piloter. Donc simplement pour évoquer, on a dans plein de secteurs différents justement des opportunités de mobiliser ces fonctions-là, à la fois suppression des câbles, dans les connexions, multiplicité des objets, réalité virtuelle, pour pouvoir éventuellement, là aussi, coupler un pilotage à distance, hein, si je suis pas à vue, mais également aussi intégration des différentes fonctions dans ces ensembles-là, dans la gestion des ports.
On voit bien, effectivement, Pierre-Jean Benguesi, pardon de vous interrompre, qu'il y a beaucoup de secteurs pour qui la 5G pourrait constituer une opportunité intéressante. Il y a effectivement aussi l'agriculture, on a dit les réseaux d'électricité, de gaz et d'eau, le secteur aérien. Mais alors, ce qui est intéressant et ce qu'il faut souligner peut-être, c'est que la grande nouveauté de la 5G par rapport à la 4G, pour entrer un petit peu dans la technique, ce sont ces réseaux privatifs qui pourront être créés sur un campus industriel, par exemple. C'est l'idée que les entreprises auront leur propre Internet, Pierre-Jean Benguesi.
Alors, elles ont déjà leur propre réseau. Hein. C'est ce qu'on appelle des PNR, hein, des réseaux privés et professionnels par radio. Hein. Je parlais tout à l'heure de Roissy, pour à la fois les applications que je mentionnais, mais aussi pour que tous les intervenants puissent être sur les mêmes réseaux, échanger des informations, etc. Donc, on a, c'est le cas sur les centrales nucléaires, donc, et dans beaucoup de zones industrielles. Donc, on a déjà ces zones, mais qui sont, dans le meilleur des cas, en 4G. Et la 5G va permettre justement, grâce à la démultiplication des objets qu'on pourra contrôler, grâce à l'absence de latence, la possibilité de contrôler des engins en temps réel ou d'avoir de la réactivité en temps réel, grâce aussi au débit important, ce qui va permettre de la visio, de la réalité virtuelle ou du contrôle visio à distance. C'est ça qui va pouvoir se développer dans ces PMR, donc dans ces réseaux privés mobile, mais ce n'est pas forcément uniquement dans ces espaces locaux. Ça peut être aussi à l'échelle d'entreprise ou à l'échelle d'un site même.
Et dans le même temps, les réseaux eux-mêmes sont en train de devenir virtuels. Les équipements pourraient être remplacés par des logiciels. Ce serait une 5G dans la 5G.
Ben, c'est-à-dire une des fonctionnalités de la 5G des innovations, c'est effectivement ce qu'on appelle la virtualisation des réseaux, la possibilité de substituer des équipements physiques par des logiciels et par des applications, ce qui permet de reconfigurer le réseau en temps réel en fonction des besoins effectifs. Je vais vous prendre juste une illustration. Imaginez que vous êtes sur l'autoroute du sud pour aller à Paris le lundi matin à 7h, donc comme des dizaines de milliers de banlieusards qui vont travailler, la route qui va vers Paris à trois voies est bloquée alors que de l'autre côté c'est vide. Si on avait la possibilité de déplacer la barrière centrale de séparation en laissant une voie d'un côté et cinq voies de l'autre, le problème de congestion et d'embouteillage serait en partie réglé.
Donc la 5G, c'est potentiellement une révolution logistique.
C'est une révolution dans la. C'est, en tout cas, c'est une partie de la révolution porte justement sur cette nouvelle manière de gérer les réseaux de manière dynamique à partir de la virtualisation.
Vincent Charlet, sur ces innovations.
On a effectivement la possibilité, j'ai rapporté demain, de voir le progrès technique continuer à avancer. Il y a quand même deux pas de temps différents. C'est-à-dire que là, les enchères ont été ouvertes et normalement, les premières bandes de fréquences devraient être exploitées, si j'ai bien compris, d'ici quelques semaines ou mois, plutôt mois. Ensuite, La bande de fréquence à 26 GHz qui offre celle-ci un débit nettement supérieur à ce qu'on a toujours utilisé jusqu'à maintenant et qui permet potentiellement de voir se déployer les applications dont on a parlé, là, voitures connectées et autres.
Ça interviendra plus tard.
Oui, c'est pas avant deux ans. C'est pas avant deux ans. Donc il va y avoir aussi un déploiement dans la durée.
Alors qui va profiter de ce nouveau marché? Quels sont les obstacles économiques au développement de la 5G? On en parle dans un instant.
Call and call my phone, thinking I'm doing nothing better. I'm just waiting for it to stop so I can use it again.
I was gonna call you back, I swear. Just as soon as I felt.
You call and call my phone, thinking I'm doing nothing better. I'm just waiting for it to stop so I can get back to it. How funny family is actually fucking as you in bits. Your mum has good genes but dads are ripped. Dance like no one is awkward, to music listen to lit. You'd worry less about what they thought if you knew how little they did. Bunch of better things, they fucking love all of the guessing. Someone just met your ex thinking they met someone special.
I was gonna call you back, I swear, just as soon as I felt.
The phone is ringing, the phone is ringing, can't use it till it stops. I moan and listen, the tone emits. The only man in black, high-vis jackets in the cap. Brexit breakfast, day glow stars, I am backing and dashing. Whoever's with my ex needs to do better, she's still texting me at 2 till 10. Weird liquor tastes weirdly better when your life is fucked up.
I was gonna call you back, I swear, just as soon as I felt.
You call and call my phone thinking I'm doing nothing better. I'm just waiting for it to stop so I can use it again. Love isn't a riddle, love isn't made to be hard. You know I'd give you my kidney, just don't ever take my charger. So dance like no one.
Call my phone thinking I'm doing nothing better, le duo de Tame Impala et des Streets. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? Suite de notre discussion sur le rôle économique de la 5G, nous sommes toujours en compagnie de Vincent Charlet et de Pierre-Jean Bengossi. J'ai d'abord aperçu la bobine. J'avais vu des dessins analogues autrefois quand j'étais à l'école. C'était dans un vieux livre. Une idée abandonnée parce qu'a priori irréalisable. Mais j'aimais lire tout ce que je trouvais sur les moteurs de chemin de fer. Ce livre racontait comment des hommes avaient travaillé sur cette idée durant des années avant de renoncer, faute d'avoir trouvé la solution. Le projet a été enterré pendant des générations. Je n'imaginais pas qu'un savant contemporain se serait penché sur le problème. Mais si, et quelqu'un l'a résolu, là, aujourd'hui. Hank, est-ce que tu comprends ce que cela signifie? Hank, sais-tu ce qu'aurait signifié ce moteur une fois mis au point? Il aurait donné 10 ans de vie à chaque habitant de ce pays. Si on songe au nombre de choses dont il aurait simplifié la production, au nombre d'heures de travail qui auraient été libérées pour d'autres activités et aux bénéfices qu'il aurait produits pour tous. Ce n'est pas de la 5G dont parlent ici Danny Taggart et Hank Reardon dans le roman d'Ayn Rand, La Grève, mais d'un moteur capable de transformer l'électricité statique en énergie cinétique, ce qui nous permet de parler de l'innovation, ce que nous dit la théorie économique Vincent Charlet et qu'illustre ici la romancière Ayn Rand, c'est que l'innovation est ce qui permet la croissance.
Oui, on a... toujours pas trouvé de meilleur moteur à la création d'emplois que les gains de productivité. Et tout l'enjeu des 20 dernières années, c'est justement que ces gains de productivité s'essoufflent. Donc ça ne signifie pas que l'innovation ne doive pas être mise en débat, ni elle n'a pas forcément un caractère nécessaire et indiscutable, mais force est de reconnaître que le progrès technique, de façon générale, est aujourd'hui ce qui permet la croissance et donc la création d'emplois.
Et la 5G pourrait entraîner une grappe d'innovation, pour reprendre le terme de Schumpeter?
Pour moi, elle en fait partie. On a parlé de l'industrie du futur et de toutes ces technologies machines connectées, lunettes connectées, bien sûr, réalité augmentée qui permet à un opérateur de, par exemple, de poser soit ses lunettes, soit sa tablette, un équipement, bref, et de voir à quoi ressemblera l'objet fini quand il commence seulement à le manipuler. Tout ça fait partie d'une grappe d'innovation qui peut potentiellement transformer la façon dont on produit. Je ne suis pas un grand amateur de l'expression « révolution industrielle ». Déjà, pour les précédentes, elle est souvent mise en débat par les historiens eux-mêmes. Mais il y a incontestablement un mouvement fort qui est à l'œuvre et je crois qu'on aurait tort de négliger.
Et alors, quelles créations de richesses, de valeurs, quelles créations d'emplois peuvent être entraînées par la 5G à l'heure actuelle, Pierre-Jean Benghozi, quelles sont les données dont on dispose sur cet impact économique de la 5G?
Très peu. je vais être très direct, très peu, mais parce que on a encore simplement une 5G qui est en cours de développement dans les pays qui l'ont installée. Dans beaucoup de cas, c'est le tout début de sa mise en place. Dans beaucoup de cas également, les usages qui sont faits de cette 5G ne sont pas des usages d'industriels encore, mais essentiellement des usages de densification des réseaux mobiles existants ou de remplacement de la connexion très haut débit fibre telle qu'on peut la connaître en France par exemple par des connexions 5G qui permettent d'avoir du très haut débit sans forcément avoir à tirer du fil.
Alors il y a tout de même une étude conduite par le cabinet britannique IHS Markit qui disait que la 5G devrait permettre de créer environ 450 000 emplois en France d'ici à 2035.
Oui, moi, ces études prospectives, je les prends toujours avec énormément de précautions, puisque il suffit d'avoir une petite variation dans les hypothèses de départ pour avoir des écarts à l'arrivée. C'est comme quand vous lancez une fusée sur la Lune, hein, c'est-à-dire un degré sur le lancement, c'est que vous allez atterrir sur Saturne plutôt que sur la Lune. Donc là, je pense qu'il faut, c'est important de voir les ordres de grandeur, mais qui sont pas forcément uniquement directement liés à la 5G. Elles sont liées, comme Vincent Charlier l'a mentionné, à l'ensemble d'une numérisation de l'industrie dans lesquelles la 5G vient remplir sa place, mais il ne faut pas la réifier non plus. Et ce qu'il faut aussi souligner peut-être pour compléter, c'est que, peut-être pour complexifier un peu la question, c'est que ces gains en termes d'emploi, de productivité ne sont pas simplement envisagés au niveau des industries et des entreprises, mais aussi des organisations publiques et des services publics. Un des cas d'usage, ou parmi les cas d'usage importants, j'ai cité tout à l'heure les ports, les gares ou les aéroports, mais aussi toutes les villes intelligentes pour lesquelles la capacité d'avoir des réseaux qui interconnectent à la fois différents types de services et de transport, de mobilité, de communication, de gestion des eaux, par exemple, ou l'électricité, qui connectent ça avec des objets connectés sur, justement, les transports publics, les feux rouges, les éclairage, etc. C'est cette technologie intégratrice dans laquelle on aura plusieurs briques, probablement des briques 5G, d'autres briques aussi éventuellement plus spécifiques, mais c'est aussi ça qui va permettre des gains non seulement de productivité au sens strict, mais également de qualité de service. En termes de sécurité, en termes de transport, etc., qui sont importants.
Ce que l'on sait déjà, Vincent Charlet, c'est que évidemment les géants de l'Internet vont profiter de la 5G, mais est-ce qu'il y a des secteurs qui risquent au contraire d'en souffrir ?
Je n'en imagine pas là comme ça. Mais sur l'emploi, il faut, je crois, rappeler une chose, une image. Dans les 50 dernières années, l'économie française est une machine, pardon de le dire comme ça, qui a réussi à produire 100 000 emplois nouveaux par an. Donc l'économie française sait produire des emplois. Mais elle avance grâce à deux moteurs, ou elle marche sur deux jambes. Il y a une économie exposée, compétitive, productive, et une économie abritée au résidentiel. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises et des gens qui travaillent dedans qui sont en permanence en concurrence avec le monde entier et dont l'activité même les rend de nature à réaliser des gains de productivité parce que c'est leur mode de survie. Et pour ces gens-là, la 5G est incontestablement un atout. Et puis il y a des services en particulier, des activités tertiaires qui convertissent la richesse créée par les premiers en emploi. Mais effectivement, les premières entreprises créent plus de richesses que d'emplois, les deuxièmes créent plus d'emplois que de richesses, pour faire très très court. Bon. Donc, la 5G, l'utilité de la 5G en termes de création d'emplois par exemple, ou de création de richesses, il faut la percevoir dans ce paysage-là. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que on ait tous un emploi à la fin du mois, mais ce qui est important, c'est que les entreprises qui ont cette fonction particulière ou cette activité qui les rend en concurrence avec le monde entier disposent des outils, qu'ils soient technologiques ou pas, fiscaux, enfin bon, bref, le débat sur la compétitivité est extrêmement large, on le sait, qui leur permettent de tenir leur rang.
Et alors, heureusement, selon vous, que les enchères ont été lancées hier. Vous estimez, à l'instar des membres du gouvernement, qui l'ont beaucoup dit dans les médias, que la France est en retard sur la 5G.
C'est très, très difficile d'avoir un avis arrêté là-dessus. Genre, est-ce qu'il était urgent Il y a eu incontestablement une séquence incomprise dans l'opinion, c'est-à-dire on installe une convention citoyenne, on leur dit on fera ce que vous nous direz, confrères. Ils disent on ouvrira un moratoire sur la 5G et on dit on le fera pas. Là, évidemment, personne ne peut comprendre. À l'inverse, il est incontestable que un certain nombre d'États déjà ont démarré la 5G.
Essentiellement les États-Unis, la Chine et la Corée du Sud.
Oui, mais pas seulement. En tout cas, quand vous regardez les cartes des antennes installées, j'ai été très étonné de voir la place devancière de la Suisse. J'ai pas eu le temps malheureusement de me renseigner là-dessus, mais je serais très curieux de savoir comment est-ce que le débat dans ce pays si particulier et démocratique qu'est la Suisse s'est tenu ou pas sur la 5G. Je sais qu'il y a des traces, hein, que ce soit en Suisse allemande ou en Suisse francophone, on voit bien que cette question a soulevé débat, mais une chose est sûre, c'est que le nombre d'antennes 5G installées en Suisse est bien plus élevé que dans tous les autres pays européens.
Il n'y a pas eu, Pierre-Jean Bengosi, les mêmes débats sur l'impact environnemental de la 5G dans les pays dans lesquels la 5G est déjà installée?
Au niveau où on l'a en France, non. En Suisse, je connais un peu, j'enseigne à Genève aussi, en Suisse, il y a eu des oppositions, et je pense qu'il y a d'ailleurs de mémoire, il me semble qu'il y a une proposition de votation qui a été initiée, je ne sais pas si elle ira au bout, etc. Mais le débat n'a pas la virulence et le côté un peu très, très emblématique qu'on peut le trouver en France aujourd'hui. Et effectivement, comme dit Vincent Charlet, il y a beaucoup de pays qui ont déjà engagé ces développements. Alors, il faut faire attention parce que on présente toujours cette course, cette concurrence internationale, un peu comme une course à l'échalote où ça sera celui qui arrivera le premier qui sera important. Comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart des pays qui ont aujourd'hui développé la 5G l'ont fait essentiellement pour développer leur réseau propre, mobile ou fixe, etc., et pas forcément pour des applications spécifiques. Mmh. Et en même temps, ils l'ont fait sur soit de la fausse 5G parfois, hein, ce qu'on a vu aux États-Unis où c'est plus de la 4G+ que de la vraie 5G qui a été en place, et surtout sur certaines fréquences, hein, je pense notamment à la 3.5 GHz qui est la fréquence un peu cœur, mais pas forcément sur les fréquences millimétriques, le 26 GHz dont on parlait tout à l'heure, qui lui va permettre des applications nouvelles, pas forcément déploiement toutes les antennes actives, intelligentes que permet la 5G. Donc cette course internationale, il faut la relativiser.
La relativiser. Alors...
Cela étant, juste un point quand même, elle est importante parce que ce qui est important, au-delà de la couverture elle-même, c'est de pouvoir avoir un espace d'innovation et de développement pour que, justement, on puisse avoir des applications de services industriels, etc., qui se mettent en place, et des acteurs qui se positionnent sur ce marché-là pour que, quand la couverture sera là, effectivement, les entreprises puissent s'en saisir.
Mais pour cela, il faut des investissements, et c'est ce qui manque, en tout cas, c'est ce que pense Börje Ekholm, qui est le PDG d'Ericsson, le géant suédois des télécommunications. On l'écoute.
Toutes ces idées selon lesquelles nous sommes dans une sorte de logique de free ride, je ne suis pas d'accord avec cela. Jusqu'ici, il y a relativement peu d'effets et nous refermons la discussion. C'est davantage en train de créer de l'incertitude sur le marché et cela réduit l'investissement dans le monde. Je pense que toute cette incertitude géopolitique n'est pas positive. J'espère que nous trouverons une solution qui nous permettrait d'aller de l'avant. Les aspects sécuritaires vont devenir critiques dans le monde de la 5G. Nous connectons tout. Cela va bien entendu générer des attentes supplémentaires en termes de sécurité des réseaux. La cybersécurité est la plus grosse menace. Nous devons donc penser la sécurité différemment. Dans une certaine mesure, c'est une question de politique de sécurité nationale.
Une interview réalisée le 21 janvier dernier, la peur des cyberattaques qui devraient être plus nombreuses avec la 5G nuit aujourd'hui aux investissements, Vincent Charlet ?
Je suppose en tout cas qu'elle fait partie de ces facteurs qui assombrissent l'horizon et qui dissuadent les investissements. Encore une fois, pardon de me répéter, hein, mais sur le terrain, dans l'industrie aujourd'hui, le monde est extrêmement diversifié et il y a peu de points communs entre une PME située dans un territoire peu dense qui voudrait d'abord accéder à la fibre et une tête de filière qui est déjà dans le monde d'après, dans le monde de demain. Mais les cyberattaques sont malheureusement déjà une réalité quotidienne pour les grands groupes. Je ne me hasarderai pas à citer les chiffres, le nombre d'attaques quotidiennes que subit un groupe comme Renault Saint-Gobain, mais c'est absolument effarant.
Mais la 5G devrait encore accélérer ce phénomène ?
Apparemment, ça offre des failles, ça ouvre des failles supplémentaires. Mais surtout, il me semble que le cœur du débat sur ces questions de sécurité... c'est aussi la question de la souveraineté des États. C'est-à-dire que on peut pas aborder cet aspect de la 5G sans poser sur la table le fait qu'il y a aujourd'hui 3 opérateurs dans le monde qui sont capables de la faire tourner, dont un chinois. Et c'est bien un des aspects de la question. C'est-à-dire que est-ce que en cas d'affrontement, de rivalité commerciale, diplomatique, la 5G ne devient pas, si j'ose dire, une faille ou un axe de vulnérabilité qui met l'Europe, par exemple, ou la France à la merci du gouvernement chinois.
Alors l'Europe, justement, est progressivement en train de fermer la porte à Huawei, puisque c'est bien de Huawei dont vous parlez. Et ça, c'est une bonne nouvelle, Pierre-Jean Bengosi, pour les équipementiers européens.
Alors ça dépend. Pour les équipementiers, je suis pas sûr. Pour les industriels, probablement davantage. Alors, pour les industriels, probablement davantage, parce que, comme l'a dit Vincent Charles à l'instant, bon, plus on prend précaution et qu'on ferme de portes, moins il y a de risques de cyberattaque, encore que en matière de sécurité, on l'a bien vu, y compris au niveau du grand public, c'est value for money. C'est-à-dire qu'on voit bien au début du commerce électronique, tout le monde disait la sécurité des cartes bleues, donner son numéro de code sur un site internet, c'est pas sûr, etc. À partir du moment où on a eu des offres tout à fait conséquentes, etc., aujourd'hui, plus personne n'hésite à donner son numéro de code, le numéro confidentiel qu'il y a derrière, etc., et son adresse, son nom, etc., pour pouvoir commander. Donc, il y a une forme de trade-off qui est faite au niveau individuel, qu'on retrouve aussi au niveau industriel. Alors, pourquoi, par contre, c'est une plus mauvaise nouvelle au niveau des équipementiers, c'est qu'une partie des équipementiers avaient déjà commencé à équiper leur réseau avec des équipements Huawei, et que le fait de limiter le recours à Huawei pour les réseaux 5G, dans le réseau où les réseaux 5G sont très intégrés au réseau 4G, ça va poser des problèmes.
De Bouygues Télécom et de SFR en particulier, oui.
Voilà, exactement.
Mais c'est une bonne nouvelle pour Ericsson, en revanche. Et pour Nokia.
C'est une bonne nouvelle pour Ericsson et Nokia, effectivement, qui sont accessoirement deux équipementiers européens.
Alors, est-ce que la frilosité des entreprises françaises est également liée, Pierre-Jean Bengosi, au fait qu'elles ne sont pas sûres de la demande ? Il y a tout de même une grande incertitude qui demeure ?
Il y a une grande incertitude. Il y a aussi, peut-être, une partie, c'est que l'industrie française est relativement peu numérisée pour l'instant. Hein, donc, Vincent Charles disait tout à l'heure, c'est aussi un point important. C'est-à-dire que pour passer à 5G, il faut peut-être aussi passer les étapes précédentes. Et puis, la demande, c'est à la fois leur propre demande, parce que, comme on l'a dit, c'est pas forcément des besoins grand public. Donc, effectivement, les demandes du grand public, elles vont pas s'exprimer. Un film, on peut pas le voir plus vite que la vitesse à laquelle il se déroule. Donc, c'est pas forcément les besoins grand public. Par contre, les besoins industriels. Et je pense que, de ce point de vue, le Covid et le ralentissement de l'économie sera aussi un frein. C'est-à-dire que des investissements qui auraient pu être consacrés à la numérisation, à des nouveaux équipements, à des investissements dans ces nouvelles formes d'organisation, vont être rendus plus difficiles ou en tout cas décalés dans le temps parce que les entreprises vont devoir affronter et couvrir les pertes ou les ralentissements d'activité qu'ils ont connus cette année.
À l'inverse, on peut considérer, Vincent Charlet, que la 5G, c'est une chance pour la relance, c'est une opportunité.
On pourrait le considérer, oui, mais enfin, je rejoins plutôt le point de vue précédent, c'est-à-dire que dans cette période assez irréelle où on est rentré en économie de guerre, enfin, je veux dire, où la France connaît la pire récession depuis 45, où le tout Paris bruisse d'un deuxième confinement, c'est vrai que le débat pour ou contre la 5G a quelque chose d'un tout petit peu décalé, et enfin, on doit en conscience admettre que les atouts compétitifs qui seront apportés par ces nouvelles technologies aux entreprises qui en auront besoin et qui sauront les déployer sont effectivement pas du même ordre de grandeur que l'ampleur du choc qu'elles ont aujourd'hui à subir et à gérer. Les deux sont vrais, malheureusement, c'est-à-dire qu'en bout de tunnel, seules les entreprises les plus résilientes, seules les entreprises les plus habiles, les plus équipées sauront reconquérir le terrain perdu. Mais il est effectivement difficile aujourd'hui de planifier avec sérénité des investissements de cette nature.
Sachant que pour les opérateurs téléphoniques, ce sont des investissements absolument considérables, Pierre-Jean Bengozy, le premier coût important de la 5G, c'est l'achat de blocs de fréquence. Et là, on peut se demander comment le prix de départ des enchères a été fixé par l'État, puisque c'est bien l'État qui vend ces fréquences.
Oui, tout à fait. C'est l'État en négociation avec l'autorité de régulation qui définit les modalités d'attribution des fréquences et les niveaux de prix. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y avait un cas que tout le monde a cherché à éviter, c'était la situation italienne et allemande où les enchères ont connu des plafonds absolument inconsidérés et aberrants, parce que plus les enchères sont chères, plus les fréquences sont coûteuses à acheter, moins les opérateurs ont de capacité à investir dans le réseau.
Donc, et en même temps, l'État espère des recettes. Donc il est pris entre deux injonctions.
L'État est impécunieux, il espère naturellement des recettes. Donc, c'est d'ailleurs ce qui expliquait le retard dans le lancement des enchères, parce que le lancement des enchères, normalement, il aurait dû être fait en 2019. Et on a eu un an et demi de décalage, notamment parce qu'il y a eu une négociation qui était un peu longue et un peu compliquée entre l'ARCEP et le gouvernement sur ces modalités, plus le Covid qui est arrivé. Aujourd'hui, la situation et le mécanisme qui a été fixé vise un peu à construire un peu une forme de situation un peu moyenne. D'une part, en proposant des fréquences, un tarif qui est pas très élevé, pour permettre à tous les opérateurs d'avoir un minimum de blocs et donc de pouvoir, chacun des opérateurs sera en mesure demain de développer des services en 5G et de développer son réseau en 5G, et par contre d'avoir un système d'enchères qui, lui, va jouer sur une dizaine de blocs complémentaires et sur lesquels ça sera le mieux-disant, celui qui mettra le plus d'argent sur la table, qui l'emportera, avec là aussi un maximum sur le bloc échangé. Donc l'État et le régulateur ont cherché à la fois à éviter que les opérateurs payent trop, à éviter qu'il y ait des disparités entre les différents opérateurs, donc on a une situation concurrentielle un peu équilibrée, tout en ayant une situation où l'État réussisse quand même à avoir suffisamment d'argent de ces enchères qui sont un bien public.
Et ces enchères démarrées hier se poursuivent donc aujourd'hui, il faudra suivre cela de près. Un grand merci à tous les deux, Vincent merci. Charlet et Pierre-Jean Bengozy, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Tout de suite, c'est l'heure du Journal de l'Écho.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Un journal présenté par Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Une certaine perplexité après la présentation lundi du budget 2020-2021. Budget de crise marqué par le plan de relance à 100 milliards qui brise tous les standards de l'orthodoxie. La machinerie du quoi qu'il en coûte est-elle bien réglée, Xavier ?
Eh bien d'abord la stratégie, car un budget est une sorte de plan de bataille qui répond à l'urgence et prépare l'avenir, a déclaré lundi Bruno Le Maire, lui-même convalescent. Et l'urgence dictée par le plan de relance, c'est d'abord le rebond, puis risque alors que la croissance rampe au fond du gouffre, une baisse de 10% du PIB, 200 milliards d'euros de richesse en moins que l'année dernière, eh bien le budget doit aider l'économie à atteindre le firmament, 8% de croissance fin 2021, soit 18 points à regagner. Toutes les cibles budgétaires de début de mandat d'Emmanuel Macron se sont donc volatilisées. L'équilibre en 2022, les 50 000 réductions de fonctionnaires et la règle des 3% de déficit repoussée à 2025, autrement dit au calendrier grec politique, épopée en perspective et presse lyrique, autre monde budgétaire, budget trampoline ou mon préféré, License to Kill budgétaire de Dominique Seux. Bienvenue donc sur Mars ou dans le New York 97 des finances publiques.
Et Bruno Le Maire dit vouloir éviter les erreurs de 1974 et 1981.
Oui, ce sont deux plans de relance qu'on peut dire repoussoirs dans l'histoire politique, celui de Jacques Chirac après le choc pétrolier et le plan Mauroy de 1981 dans le style keynésien, les deux s'étant terminés dans la rigueur forcée, d'où cette fois une politique d'offre assumée, un tiers des crédits en direction des entreprises et entre les baisses d'impôts à la production et les décaissements d'urgence, ce sont 42 milliards d'euros sur 100 qui doivent être dépensés avant fin 2021. Stratégie du vite et fort, commente La Croix, c'est bien le pari du ministre de l'économie.
Reste donc à savoir si le retour à la croissance après 2021 n'est pas une fiction.
Oui, puisqu'après trois budgets rectificatifs, beaucoup d'éditorialistes et économistes s'interrogent sur la fiabilité des prévisions. En témoigne par exemple le calcul du déficit, passé de 225 milliards à 195 après reprise et rentrée fiscale de l'été. D'ailleurs, lundi encore, Bruno Le Maire se disait prudent quant à l'estimation de 10% de perte de croissance, estimant être dans la fourchette des prévisionnistes, mais il ne donne pas d'hypothèse de croissance après 2022. Pour le directeur de l'OFCE, Xavier Timbaud, il faut même lire entre les lignes, la perte de deux années de PIB signifierait aussi un chômage à 11-12% en 2022. L'affaiblissement du tissu social et productif et le manque à gagner fiscal risquent de rendre la relance inefficace, voire suicidaire, dit-il. Plan de relance sans relance, conclut-il, et voilà une chose de lancée. Dernier problème, et peut-être le principal, c'est que le budget ne tient pas compte de l'évolution incertaine de la crise sanitaire. Il n'y a pas de scénario alternatif à ce plan, alors même qu'il est déjà menacé par l'accélération de l'épidémie actuelle, souligne Étienne Lefebvre dans Les Échos.
L'optimisme du gouvernement a même été sévèrement critiqué par les autorités de contrôle il y a une semaine.
Oui, le Haut Conseil des Finances Publiques, qui, s'il juge la plupart des prévisions plausibles, réfute l'hypothèse unique de croissance forte à 8% qu'il qualifie de volontariste, ce qui, à en croire les spécialistes de ce genre de diplomatie, équivaut à un véritable désaveu. Le scénario unique passe mal et met les commentateurs en verve. Édifice intellectuel qui souffre d'apesanteur, écrit le spécialiste du sujet Jean-Yves Archer dans Les Échos, ou encore budget montgolfière, renchérit l'ancien ministre du budget Éric Woerth, qui voit dans le projet de loi beaucoup de politique. Apesanteur donc parce que le gouvernement sous-estime certains dommages à l'économie et surestime certaines performances, mais aussi parce qu'il survole l'enjeu central pour un budget, selon le HCFP, la soutenabilité de la dette, c'est-à-dire la possibilité de la rembourser, puisqu'avec un déficit record de 152 milliards d'euros et une croissance plus faible, le ratio de la dette explose mécaniquement et il reste peu de marge pour la résorber.
Alors va-t-on passer du budget de crise à la crise budgétaire ?
Si et quand, c'est la question. Le HCFP veut une nouvelle loi de programmation avant le printemps 2021, mais même si la croissance reprend, la relance prépare de longues années de rédemption budgétaire symbolique. La sécurité sociale en déficit jamais vu de 44 milliards d'euros alors qu'elle atteignait péniblement l'équilibre en début d'année. Et pendant ce temps, il faudra payer la facture globale, la dette qui, à défaut d'être allégée par la croissance et les rentrées fiscales, pourrait l'être par les épargnants, affirme François Langlais dans son dernier livre, c'est-à-dire la baisse des taux. Pour que l'État se refinance moins cher, il faut que l'épargne rémunère moins bien. Pour faire donc une bombe à retardement budgétaire, comme l'appelle Éric Woerth dans le JDD, il faut deux ingrédients. Beaucoup de dettes, beaucoup d'incertitudes. Ce budget a les deux dans la même boîte et ce n'est peut-être pas le seul.
Merci beaucoup Xavier et on vous retrouve demain pour un nouveau Journal de l'Écho.
Things early on in my life, some will always be true till the moment I die. I was taught to believe and to use my own eyes, let alone to conceive, left alive to survive.
On se quitte avec Avishai Cohen, A Moment in Time. Un grand merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation aujourd'hui, Philippe Baudouin, à la technique, Élise Leu. Demain, le déploiement de la 5G va-t-il renforcer la fracture numérique dans l'Hexagone? On en parlera avec le géographe Philippe Vidal. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.